Voilà, ce matin, nous sommes dans Marc chapitre 1, à partir du verset 14, et j'ai intitulé mon message « Les sept traits marquants du ministère de Jésus ». Les sept traits marquants du ministère de Jésus. Aujourd'hui, c'est la première partie, donc on va faire ça en deux parties. Et j'aimerais juste, pour commencer, lire les versets 14, donc Marc 1 à partir du verset 14 et jusqu'au verset 22. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient leur filet. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaüm. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. On va s'arrêter là pour ce matin. Les sept traits marquants du ministère de Jésus. Notre texte d'aujourd'hui et le dimanche prochain nous révèle que le ministère de Jésus avait au moins sept traits marquants. Il y en a certainement beaucoup plus, mais c'est ce que nous allons voir dans ce premier chapitre. C'est intéressant que dans 1 Jean, je vais lire, 1 Jean 2, 6, il est dit ceci, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » En effet, tout chrétien né de nouveau veut apprendre à marcher comme Jésus a marché. Et une des choses que j'aime avec les sept traits marquants du ministère de Jésus que nous allons voir ces prochains dimanches, est le fait qu'ils sont en fait reproductibles. Ces traits devraient se manifester d'une manière ou une autre dans nos vies également. Et donc nous allons voir que ce texte, en fait, est extrêmement pratique. Alors je révise un petit peu pour nous plonger dans le contexte. Vous vous rappelez que l'évangile de Marc démarre avec le ministère remarquable de Jean-Baptiste, qui était le précurseur direct de Jésus. Nous avons brièvement parcouru sa vie, puis nous avons examiné le baptême de Jésus, qui était l'inauguration publique de son ministère, suivi immédiatement de la tentation de Jésus par Satan. Nous avons vu que Jésus, n'ayant pas cédé aux ruses du tentateur, entame, dans notre texte d'aujourd'hui, son ministère. Alors regardez verset 14, juste pour encore dessiner ce contexte. Il est dit « Après que Jean eut été livré ». Après que Jean eut été livré, cette note est simplement un repère chronologique. On apprend que c'est après la mort de Jean-Baptiste que Jésus a décidé d'aller en Galilée. En fait, nous allons voir plus tard, dans chapitre 6, les détails de l'arrestation et de la mort de Jean-Baptiste. Donc on apprend, verset 14, qu'après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Alors c'est là que j'aimerais vous montrer un plan de la Galilée, d'Israël. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais j'ai mis des points rouges pour essayer de nous montrer ce qui est pertinent pour nous. Alors déjà, la Galilée fut la région la plus au nord de la Palestine. Là, vous voyez la mer Morte en bas et la mer de Galilée en haut. Si vous avez l'occasion d'aller en Israël, tout de suite les repères reviennent et vous replongez dans votre voyage là-bas. C'est vrai que pouvoir y aller, c'est un immense privilège. Et donc, Jésus, en fait, a demeuré 3 ans dans la région de la mer de Galilée. Au verset 14, c'est ce qu'il dit. Il dit, Jésus alla dans la Galilée. Donc, c'est au nord, là autour où il y a la mer de Galilée. Et là, selon verset 21, ils se rendirent à Capernaüm. Donc ce que vous voyez, le premier point gauche, le point rouge en bas à gauche, c'est Jérusalem, juste pour mettre le repère. Ensuite, le deuxième point rouge, juste en dessus de la mer morte, c'est là, dans la région où Jésus a été tenté par Satan, donc baptême et tentation, avec le Jourdan qui va de la mer de Galilée jusqu'à la mer morte, d'accord ? Et ensuite, il est monté dans la Galilée, là où il y a le point rouge sur le nord-ouest de la mer de Galilée, c'est la ville de Capernaüm. C'est là où Jésus, en fait, a basé son ministère pendant environ 3 ans. Donc voilà, tu peux éteindre maintenant, mais au moins vous avez ça plus ou moins dans votre esprit. Alors la question se pose, pourquoi est-ce que Jésus est monté dans cette région? C'est intéressant de le savoir. Je crois qu'il y a plusieurs raisons, très brièvement. Premièrement, Jean-Baptiste venait d'être exécuté dans la région du sud, donc il y avait un danger à rester là. Il y avait la persécution, on peut dire. Deuxièmement, il y avait moins de prêtres religieux et de pharisiens dans le nord. Ils étaient plus basés autour de Jérusalem, là il y avait le temple. Et donc là-haut, il y avait probablement une plus grande liberté de mouvement pour Jésus. Troisièmement, c'était aussi l'accomplissement d'une prophétie. Ça, c'est intéressant, dans Matthieu 4, 12, je vais vous lire aussi, Matthieu 4, 12, on lit, « Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaüm, situé près de la mer, dans le territoire de Zébulon et Naphtali. » Donc ça, c'est les anciennes tribus d'Israël, c'était dans le nord, là-haut. « Et afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, » Et là, il cite Ésaïe 9, 1 et 2, « Le peuple de Zébulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays d'au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple aussi dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Et il est dit ensuite, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Donc c'était une prophétie que Jésus aille là-haut, dans ce qu'ils appellent la Galilée des païens. Et justement, la Galilée, on pourrait dire, était plus ouverte probablement à l'évangile que d'autres régions de la Palestine, mais encore pour plusieurs raisons. Premièrement, la Galilée était peut-être petite, mais elle avait une population très dense. La Galilée, de loin, était la région la plus fertile de toute la Palestine. Si vous êtes allé en Israël, vous savez que dans le sud, il y a le désert. Et vous montez là, et tout d'un coup, vous arrivez au bord de la mer de Galilée, et c'est la verdure. C'est assez étonnant de voir dans ce petit pays le contraste entre le sud et cette région. Donc, cette région est fertile. Joseph, le célèbre historien juif, avait lui-même été un temps le gouverneur de la Galilée. Il a décrit cet endroit comme un endroit riche en terre et pâturage, produisant une grande variété d'arbres. Et le résultat, c'est que cette Galilée, pour sa taille de 120 km de long et de 60 km de large, avait une population énorme. Il nous dit qu'il y avait, Joseph encore nous dit qu'il y avait un grand nombre de villages. Beaucoup de ces villages, surtout autour de la mer de Galilée, avaient plus de 15 000 habitants à l'époque. Donc, une très grande population dans cette région. On apprend en plus, encore, on répond à la question pourquoi Jésus est monté là-haut. Dans Matthieu 4, 15, que je viens de lire, ils appelaient cette région la Galilée des païens. Pourquoi ? Parce que la Galilée était en fait entourée de pays païens. À l'ouest, la Phénicie, au nord et à l'est, la Syrie, au sud, la Samarie. Et donc, il y avait une influence forte d'idées non-juives. Et ça, c'était intéressant pour Jésus. Ça, les gens étaient ouverts à d'autres idées. Et dernière chose qu'on pourrait dire par rapport à ça, c'est que les grandes routes du monde passaient au travers de la Galilée. La route de Damas jusqu'à la mer, passait par la Galilée, et allait plus loin encore jusqu'en Égypte et en Afrique. Tout cela pour dire que la Galilée était un endroit où il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de voyages, un endroit propice pour la propagation de l'Évangile. Et donc, Jésus monte en Galilée et s'installe dans la ville de Capernaüm, une ville qui est sur la côte de la mer de Galilée, qu'on peut visiter aujourd'hui. Et de nouveau, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, c'est vraiment génial, comme je dis, de voir la Bible en 3D, parce que c'est vraiment ce qui se passe quand on est. Donc ça, c'est en guise d'introduction. Alors à partir de là, on arrive maintenant à ces 7 très marquants, 7 très marquants du ministère de Jésus. Alors on va les prendre un à la fin, d'accord ? Alors, numéro 1, le premier très marquant du ministère de Jésus, le voici, Jésus prêchait l'Évangile. Jésus prêchait l'Évangile. Verset 14, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le mot prêcher veut simplement dire proclamer. C'est le même mot qui est utilisé pour décrire dans chapitre 1 et verset 4 la proclamation de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste et Jésus faisaient la même chose. Dans Actes 28, 30 à 31, Paul faisait la même chose. C'était l'annonce, la proclamation de quoi ? L'évangile de Dieu. Littéralement, la bonne nouvelle de Dieu. C'est quoi cette bonne nouvelle de Dieu ? Et la bonne nouvelle de Dieu, c'est que malgré le jugement certain de Dieu sur les pécheurs, sa miséricorde est disponible à ceux qui se repentent de leurs péchés et placent leur foi dans le Sauveur unique, qui est le Messie Jésus-Christ, pour être pardonnés de leurs fautes et recevoir la vie éternelle. Ça, c'est un résumé de la bonne nouvelle. Romains 1, 16, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc, Jésus nous apprend, nous apprenons que Jésus prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Donc, il se présentait lui-même comme le sauveur des hommes. Incroyable. Alors, si on devait maintenant découper son message en quatre parties, ben c'est le verset 15. Le verset 15 nous donne les quatre parties de son message. C'est très simple. Premièrement, il disait « Le temps est accompli ». C'est comme ça qu'il prêchait l'évangile. Il disait « Le temps est accompli ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Jésus annonçait que la saison, le moment, l'époque était accomplie. Tout ce que les prophètes avaient annoncé sur la venue du Messie était arrivé. L'arrivée du Messie est maintenant. En d'autres termes, le Messie est enfin arrivé, aujourd'hui, de nos jours, oui, de notre époque. Vous l'attendiez depuis des millénaires, plus d'attente, il est là. Alors, il y a un incident, parce qu'il s'est arrêté à Nazareth en y allant, d'accord ? Dans Luc 4, 16, très intéressant, je vais vous dire, d'accord ? Parce que vous voulez y aller avec moi, c'est intéressant. C'est quand même un moment extrêmement marquant, poignant dans la vie d'Israël. Jésus est à Nazareth et il rentre dans la synagogue. D'accord ? Verset 16, je prends Luc 4 et verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Donc Jésus se lève dans la synagogue, on lui donne le livre d'Ésaïe, alors il ouvre, on lui déroule. Se leva pour faire la lecture, verset 17, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Donc là, il ouvre à Ésaïe 61, verset 1 et 2. Et Jésus lit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ils attendaient une parole de lui, un commentaire. Alors, il commença à leur dire, écoutez bien, Jésus dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Vous allez voir, vous êtes un juif là. Vous voyez cet homme se dire, aujourd'hui, cette Écriture est accomplie. Ils ont bien compris. Parce que quelques versets plus tard, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire ? De le tuer. De le tuer en le poussant sur de la falaise. On était les voir d'ailleurs en Israël. Pour cette falaise, ils ont osé laisser le pousser. Et la Bible nous dit qu'il s'échappe. Ils ont parfaitement compris que Jésus était en train de dire aujourd'hui, le Messie est arrivé. Et le Messie, c'est moi. Ça fait des milliers d'années que vous attendez le jour. Le jour J est arrivé. Donc voilà ce que veut dire, on retourne à Marc 1, le temps est accompli. Deuxième partie de son message, on voit au verset 15, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, c'est la sphère d'existence que nous avons en Dieu. Ce royaume implique qu'il y a un roi, donc Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qu'il y a un royaume et qu'il y a des sujets. Les sujets, c'est nous. Le royaume de Dieu est donc là où Dieu exerce sa souveraineté à l'égard de ses sujets. Ce royaume, il est invisible et bien réel. Il a été officiellement inauguré avec l'arrivée du Messie. Luc 17, 21. C'est pour ça que Jésus le proclame. Et il dit, ce royaume est proche. Littéralement, ce royaume est rempli, arrivé, accompli, proche. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que le temps est accompli, le Messie est là, le royaume de Dieu est proche, il est là. Il est là. Il est ici, maintenant. Il est tellement proche que vous pouvez le saisir vous-même. Vous dites, ouais, mais comment on fait? Comment on fait pour rentrer dans son royaume? C'est les deux prochains points. Regardez ce qu'il dit. Verset 15, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Il dit, repentez-vous. Tu dis, comment est-ce que je fais pour connaître son royaume, pour connaître le Messie? Première chose, repentez-vous. Métanoïété, changement d'attitude et de direction. Je reconnais que je suis habité par le péché, que ma vie est en porte-à-faux avec la sainteté de Dieu. Je reconnais que tous mes efforts humains ne peuvent pas me donner accès au royaume de Dieu, car le critère de Dieu est la perfection. Tout ce que je peux faire, c'est de reconnaître que je suis pécheur, que je veux m'en détourner, et je supplie à Dieu de me donner sa miséricorde et de me pardonner mes péchés. Au travers du sacrifice de son Fils, Jésus qui était venu pour prendre nos péchés, mourir et ressusciter, lui seul peut m'accorder le pardon des péchés. Vous savez, la repentance, je la trouve très belle, décrite par l'Église à Thessalonique. 1 Thessaloniciens 1,8 dit ceci, non seulement Paul écrit à l'Église, et en dit, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans la Caïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte, écoutez bien, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère. Alors ce qui est beau, c'est une image très belle de la repentance. Voilà, un jour les Thessaloniciens ont réalisé, waouh, nous sommes dans l'idolâtrie. Le Dieu que j'adore est un faux Dieu. Et je réalise que ma vie est une vie d'idolâtrie, mais que je dois me tourner, repentance, vers le seul et unique vrai Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et attendre son Fils, donc lié à Jésus-Christ, son Fils. Donc la repentance, c'est ça. Lorsque Jésus dit « Repentez-vous », il dit « Reconnaissez votre péché, reconnaissez votre éloignement du seul et unique vrai Dieu, reconnaissez votre idolâtrie, repentez-vous, tournez-vous, changez-vous d'attitude, Seigneur, viens me sauver en Christ, par ma foi. » Et si tu fais ça, mon ami, tu seras sauvé. Et regardez le quatrième point. Et croyez à la bonne nouvelle, verset 15. Croyez à la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi croire? Jean 1,12 nous donne la réponse. Écoutez Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, virgule, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Croire en Jésus-Christ, mes amis, ça veut dire recevoir Jésus-Christ. Ça veut dire, Jésus-Christ, je reconnais que toi, tu es sans péché, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le Messie, toi tu es le seul qui peut vraiment prendre mes péchés et me pardonner. Je crois en toi qui veut dire que je te reçois comme sauveur et le Seigneur et Maître de ma vie. Si tu fais ça, mon ami, la Bible t'appelle sauvé, enfant de Dieu, pardonné, justifié, adopté, etc. Tu deviendras vraiment un disciple de Jésus-Christ. le message que Jésus proclamait. Ceux qui se repentent et croient dans la bonne nouvelle entrent dans le royaume de Dieu. Mais ceux qui ne se repentent pas, ne croient pas la bonne nouvelle, ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Oui, c'est un peu radical ça. Mais écoutez, Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est noir et blanc. T'es ou dans le royaume de Dieu ou à l'extérieur du royaume de Dieu. Tu ne peux pas avoir un pied dedans et un pied à l'extérieur, ce n'est pas possible. Tu es ou bien disciple de Jésus-Christ ou tu ne l'es pas. Tu t'es ou bien repenti ou tu ne t'es pas repenti. Tu as ou bien cru en Jésus-Christ pour être sauvé ou tu n'as pas cru en Jésus-Christ pour être sauvé. Ou bien tu te diriges droit vers le ciel éternel, ou tu te diriges droit vers la colère éternelle de Dieu, ce qu'on appelle l'enfer dans la Bible. C'est noir et blanc. Tu dis, ouais, je suis mal à l'aise avec ça. Désolé, c'est ce que la Bible dit. Et si ce n'était pas noir et blanc comme ça, pourquoi est-ce que Christ serait venu? Pourquoi est-ce que Dieu aurait offert son Fils si l'enfer n'existait pas? C'est un bon sens. C'est intéressant. Moi, je pense que c'est une des premières marques du ministère de Jésus. Et en premier, regardez verset 38. Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Donc, sorti du Père. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile par lui. Il est venu se présenter lui-même comme la solution au péché des hommes. Et donc beaucoup de gens regardent la vie de Jésus, disent, oh, il a fait des miracles, ça, il y en a beaucoup, on les verra. Mais ne soyons pas détournés par ces miracles. Ces miracles, il en a fait beaucoup, mais le but, c'est qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Bien-aimé, c'est ce que j'espère sera pour toujours la priorité numéro une de cette Église. La proclamation fidèle, régulière, systématique de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ce que Paul a dit dans Actes 20 et le verset 27, lorsqu'il a dit ceci à l'église d'Éphèse, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. » Dans tous les ministères de l'église, que ce soit au culte, que ce soit dans les cours théologiques, que ce soit dans les groupes d'hommes, qu'on n'a pas encore de femmes ou de jeunes, mamans, ou le groupe d'ados, ou le groupe d'enfants à l'école du dimanche, ou dans les groupes de maison, ou même dans le groupe de louange, parce que les paroles de notre louange doivent être remplies de la bonne nouvelle de l'Évangile, que l'enseignement soit toujours, et la proclamation de l'Évangile toujours et constamment et continuellement une des priorités, ou la priorité de cette Église. Toujours fidèlement enseigner la parole de Dieu, même si elle est fausse, même si elle trompe. Nous devons être posés sur la parole de Dieu, sur l'Évangile. Et je pense que le jour où nous allons remplacer, et malheureusement, j'ai peur, parce que je me dis dans 10, 20, 40, 50, 60, 200 ans, j'en sais rien combien de temps ça va prendre, mais vous savez, toutes les églises, avec le temps, on a l'impression que viennent libérales. Et ça me fait vraiment peur. Et que le Seigneur vraiment nous aide. À ne jamais rentrer sur cette route. On va comment compromettre la parole de Dieu, parce que le jour où on fait ça, ce sera le jour du commencement de la mort dans cette église. Deuxième trait marquant de la vie de Jésus. Il façonnait des disciples. Regardez verset 7. Alors maintenant, il est en haut, en Galilée, il est au bord de la mer de Galilée, il se promène. Avec un but dans un domaine, d'accord? Comme il passait le long de la mer de Galilée, verset 16, il dit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Donc, ce fameux jour, Jésus est au bord de la mer de Galilée, proche de Capernaüm. C'est sûr qu'il est en train de chercher des hommes qu'il allait pouvoir former, parce que lui, il sait très bien, lui connaît tout, il est souverain. Il a une mission, il sait tout. Donc, il sait très bien qu'il a 3 ans devant lui. 3 ans. 3 ans. Pour trouver les hommes, transformer leur vie, afin que ces hommes, ensuite, portent ce message dans le monde entier. 3 ans. Ça, c'est un défi. Donc, Quel genre d'homme allait-il choisir? Imaginez que vous aviez 3 ans, encore 3 ans à vivre, et vous voulez changer le monde. Et vous devez trouver tous hommes. C'est intéressant comme question, vous ne trouvez pas? Quel genre d'homme allez-vous choisir pour transformer la planète avec la bonne nouvelle de l'Évangile? Alors avant de regarder ce choix, juste un mot sur la mer de Galilée, c'est intéressant. Alors de nouveau, la raison que Jésus se trouve au bord de la mer de Galilée, c'est tout simplement parce que c'était là, au bord du lac, qu'il y avait la plus grande activité. La mer de Galilée donnait tant d'eau, 26 km de long, 16 km de large, avec, à l'époque, ses 15 villes sur les rivages. Alors cette mer était connue pour son abondance de poissons. L'historien Joseph nous dit qu'à tout moment, on pouvait voir dans les groupes jusqu'à 240 bateaux qui faisaient la pêche. Je crois que quand nous y étions, on en a vu peut-être 10, d'accord ? Mais à l'époque, c'était 240. Donc, Jésus est là, se promène sur la plage, et là, parmi les foules, il remarque 2 frères, Simon et André. Et le texte nous dit qu'ils étaient en train de jeter un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Apparemment, ils étaient, eux, sur le rivage en train de le faire. Alors, il y avait 3 modes de pêche à l'époque. Il y avait, premièrement, la pêche traditionnelle à la ligne, avec un hameçon à la pente, ça se faisait. Deuxièmement, il y avait la pêche entre 2 bateaux. Vous aviez 2 bateaux qui étaient ensemble avec un grand filet, et on ramassait les poissons qui étaient dans le filet. Troisièmement, il y avait une pêche qui s'appelait la pêche au filet rond. C'est un filet rond sur le bord duquel il y avait des petits pois tout autour, et on jetait le filet d'une manière habile, comme ça, je ne sais pas exactement comment il faisait, d'accord ? Et l'idée, c'est que le filet s'ouvre comme un parapluie et tombe dans l'eau. Ou plutôt, d'accord ? Et ce filet, tiré par les pois, va descendre très vite au fond, et les pauvres poissons qui étaient en train de passer juste à ce moment-là, tac. Ensuite, tirait, les plombs s'en mettaient, et on montait le filet dans le bateau, et c'est comme ça qu'on attrapait les poissons. Alors, dans le cas de Simon et André, c'était sans doute cette 3e technique qu'ils étaient en train d'utiliser lorsque Jésus les appelle. On apprend qu'ils sont au bord du lac, ils jetaient un filet dans la mer, et le mot grec pour ce filet, c'est justement celui qui, c'est un mot qui veut dire ce qui est entre la terre et l'eau, probablement une référence à ce filet. Alors, les 2 personnages, regardez. Simon et André, c'est tout ce qu'on sait d'eux, ici. Les pêcheurs. Frères. 2 frères en train de pêcher. Jésus leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. On continue, je reviendrai. Aussitôt, ils laissèrent leur filet le suivre. 19. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui aussi étaient dans la barque et réparaient leur filet. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Alors là, maintenant, il appelle les 2 premiers, Simon et André, et ensuite, il appelle maintenant, il va un peu plus loin, il appelle Jacques et Jean. Alors, qu'est-ce qu'on apprend d'eux? Ils étaient aussi pêcheurs, mais il y a une petite différence, ils étaient aussi frères. Mais ils semblent, eux, avoir été d'une famille relativement aisée du fait que le texte nous dit que leur père Zébédée avait des ouvriers qui travaillaient pour lui. Tout le monde n'avait pas le privilège d'avoir des ouvriers. Nous savons aussi dans Jean 18,15 que Jean était connu du souverain sacrificateur à Jérusalem. Vous vous rappelez, quand il voulait aller voir Jésus dans la cour, eh bien, il connaît quelqu'un et on le laisse entrer dans la cour avec Pierre derrière. Et donc, ils connaissaient le monde. Et ils pensent que ce commerce de poissons qu'ils avaient à la mer de Galilée, eh bien, ils exportaient leurs poissons à Jérusalem et le vendaient au souverain sacrificateur. Donc, ils avaient un business correct, même un très bon business d'une entreprise familiale de poissons. Alors, aujourd'hui, on appelle ces poissons les poissons de Saint-Pierre, parce que Pierre est connu et Pierre pêchait là. On peut encore les avoir, ces poissons, mais ils vivent, bien sûr. On peut encore les pêcher. Alors, c'est donc ici, sur cette plage, que Jésus trouve ses 4 premiers disciples. Alors, aussi, on apprend au verset 19 et 20 que Jacques et Jean étaient dans la barque avec leur père et les ouvriers. C'était des bateaux assez grands et qu'ils étaient, eux, en train de réparer leur filet sans doute après une nuit de pêche. Et là, le texte dit, il les appela, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. C'est intéressant que l'appel de Jésus est public, devant leur père, devant les ouvriers. Apparemment, la situation financière du père de Zébédée, du père Zébédée était telle qu'il pouvait se priver de ses deux fils dans l'entreprise familiale. La Bible ne donne aucune indication comme quoi le père Zébédée s'est opposé à l'action de ses deux fils, bien que c'était certainement un sacrifice pour lui. Alors voilà globalement l'histoire, d'accord? Alors j'aimerais en tirer quelques applications sur ces versets d'appel. J'aimerais qu'on considère quelques points saillants sur l'appel de ces quatre disciples, mais aussi sur l'appel de disciples encore aujourd'hui. Parce que vous dites, ouais, bon d'accord, mais est-ce que Jésus appelle encore des disciples? Et Matthieu 28, 18, que vous connaissez, dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parle ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc Jésus, encore aujourd'hui, veut que les disciples fassent des disciples. Jusqu'à son retour. Comment? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc jusqu'à la fin du monde, ce travail de façonner des disciples doit continuer. Alors, quelques points à considérer sur cela. Numéro 1. Donc je crois que Jésus dit ici. Numéro 1. Jésus appelle les hommes ordinaires. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Si vous aviez 3 ans, vous vouliez changer le monde avec l'évangile, quel genre d'homme est-ce que vous choisiriez? La première réponse est qu'il a appelé les hommes ordinaires. N'est-ce pas intéressant de considérer le fait que Jésus a appelé des hommes ordinaires et pas des hommes très cotés au niveau société? Ils étaient des pêcheurs, ils étaient des gens simples. Ils n'ont pas été recrutés des grandes écoles théologiques ou de l'aristocratie. C'est intéressant que Jésus a globalement changé le monde avec des hommes simples et ordinaires. Alors, est-ce que ça veut dire que si on n'est pas simple et ordinaire, je peux dire ainsi, peut-être que vous avez grandi dans une famille aristocratique, peut-être que vous êtes très riche, peut-être que vous avez fait beaucoup de formations, vous avez 4 doctorats, j'en sais rien, d'accord? Alors, est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas être utilisé par Dieu? Ben non, bien sûr que non. Ben oui, c'est-à-dire que vous pouvez être utilisé, bien sûr. En Corinthiens 1, 26, c'est ce que je veux dire. Oui, vous pouvez être utilisé. Non, ne pensez pas que vous ne pouvez pas être utilisé. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens, verset 26 du chapitre 1. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles que l'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Je trouve ça très beau. Dans l'Église, il y avait des puissants, des nobles, des gens placés, mais pas beaucoup, qui montrent que, globalement, Dieu utilise des gens normaux. Alors, si vous êtes une personne normal, super, vous devriez être super heureux aujourd'hui. C'est super, moi je trouve ça. C'est un point, moi, qui m'encourage énormément. C'est pour ça que dans l'évangélisation et dans le discipulat, on n'aurait pas visé les gens, dire ouh là là, si lui se convertit ou si elle est convertie, ou attention, là, ça va être super. Non, Dieu peut prendre une personne très simple et transformer sa vie pour qu'elle devienne hyper puissante à son œuvre. Deux, Jésus appelle les hommes sans les brusquer. C'est vrai qu'en lisant ces versets, on a l'impression que Jésus va essayer de faire pour la première fois ce jour-là. Ils sont en train de faire leur truc dans leur bateau, leur pêche et tout ça. Il leur dit, suivez-moi. Tout d'un coup, pouf, il lâche tout. C'est l'impression que ça donne en lisant ces versets. Ils laissent tomber leur filet, ils tournent le dos à leur travail, à leur famille, à leur père, à leur famille, à tout le monde, et ils suivent Jésus pour ne plus jamais retourner à leur vie de pêche. En fait, il n'y a rien de plus faux. En fait, c'est là, mes amis, où il faut une lecture avisée de la Bible. Il y a combien d'évangiles dans la Bible? Il y en a 4. Marc, c'est un évangile, mais il faut comparer les quatre évangiles pour avoir le récit complet. Très important de le faire lorsque vous lisez la Bible et pas être trop hâtif dans nos conclusions. Car l'évangile de Jean nous apprend en fait que Pierre et André avaient déjà rencontré Jésus avant l'incident décrit dans Matthieu 4. Dans Jean 1, 34, je vais vous lire, d'accord ? On est dans Jean 1, 34, et on voit le ministère résumé de Jean-Baptiste, où il est vu, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et regardez verset 35. Le lendemain, Jean était encore avec deux de ses disciples. Donc Jean-Baptiste avait deux disciples, lui. Ayant regardé vers Jésus qui passait, il lui dit, voilà, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples, alors qui sont ces deux disciples? Continuons à lire. L'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Donc Jean-Baptiste avait des disciples, Jésus passe, il dit, suivez-le. Alors il change et il suit maintenant Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il les suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Écoutez bien. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, un jour entier. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux frères qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Donc c'est qui les deux frères qui étaient disciples de Jean-Baptiste? Quel est le premier à avoir suivi Jésus? D'accord, André. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, donc André rencontre Jésus, et dit, waouh, Jésus c'est le Messie, il va chercher son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Et Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, qui veut dire Pierre le rocher. Déjà à cet instant, Jésus dit à Pierre, je vais complètement te transformer. Tu n'as rien encore vu, Pierre. Alors Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Et il se retrouve maintenant, après cet incident, en train de faire la pêche à la mer de Galilée. Et Jésus arrive. Très important de savoir ça. Il est important de noter que Simon et André avaient déjà passé un jour entier avec le Messie. Moi, je me dis, tiens, qui passe un jour entier avec le Messie, tu crois que ça change ta vie? Un jour entier avec Jésus. Ah, le privilège. Ça va être génial. Alors, moi, j'ai l'impression, c'est mon impression, c'est ce que je pense. Je pense que c'est à ce moment-là, dans Jean 1, que ces deux frères ont accepté Jésus comme le Messie. C'est là, je crois, qu'ils ont vraiment été sauvés personnellement. L'appel qui va se produire dans Marc 1, me semble-t-il, était un appel pour un service plein temps en sa compagnie, pas un appel à la conversion qui avait déjà eu lieu. Alors, combien de temps est-ce qu'il y a eu entre Jean 1 et Marc 1? Bon, on ne sait pas. Certains disent quelques semaines, certains disent quelques mois, certains même disent jusqu'à un an, probablement dans la zone de quelques mois. Donc ça, je trouve très bon. Très bon. Jésus ne brusque personne. Il leur a donné le temps de réfléchir. Et nous ne devrions brusquer personne lorsque nous annonçons l'évangile à quelqu'un. Alors parfois, il y a des situations où on sent vraiment qu'il faut être clair, définitif avec quelqu'un. Parfois, on réalise qu'il faut annoncer l'évangile et laisser couler les choses. Laisser que les gens vraiment réfléchissent. Et aussi même pour un appel, je dirais, définitif, dans un ministère plein temps, quelqu'un qui vient à Christ et plus tard, il se demande, tiens, est-ce que je vais être dans un ministère plein temps? Il ne faut pas brusquer les gens. Il faut leur laisser le temps. Jésus sait comment faire. Jésus sait comment appeler sans brusquer. Et finalement, ce jour où il vient, au bord de la mer, il sait qu'ils sont prêts. Il dit, maintenant, suivez-moi. Zébédée, le père, savait, tout le monde savait déjà, il réfléchissait à tout ça. Trois. Jésus appelle les hommes à des moments inattendus. Alors voilà. Est-ce qu'ils s'y attendaient vraiment ce jour-là? Ce jour-là, dans leur bateau, en train de faire la pêche, est-ce qu'ils s'attendaient que Jésus viendrait ce jour-là et dirait, suivez-moi? Moi, je sais que le jour de ma conversion en Inde, quand j'avais 19 ans, je n'y attendais vraiment pas. Et je me rappelle, je me suis converti, et c'était quelques années plus tard, j'étais dans une église en Californie. Je m'interrogeais par rapport à un ministère plein temps. Enfin, je croyais oui, mais je ne savais pas trop exactement. Et dans le culte, un jour, le pasteur s'est levé et il a prêché sur Matthieu 28. Il a dit, voilà, si vous sentez un appel à un ministère plein temps, levez-vous et venez de vous. Je n'avais jamais vu ça dans cette église. Et là, c'est comme une main m'a poussé, je me suis levé, je suis allé devant. Et là, je savais que c'était sûr et certain, pour le reste de ma vie, je voulais servir de temps. C'est comme ça. C'est un drôle de truc, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. C'était un moment, les deux moments inattendus dans ma vie. Quatre. Jésus appelle les hommes à un objectif clair. Regardez ce qu'il leur dit, on est de retour dans Marc 1. Dans Marc 1, il leur dit au verset 17, « Suivez-moi. » Et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs d'hommes. C'est intéressant. L'objectif numéro un de Jésus en choisissant les disciples, c'est de faire d'eux des hommes qui pouvaient en amener d'autres au salut. Il voulait les former et les déployer à leur tour pour ce travail. C'est ce qu'on a déjà vu dans Matthieu 28. N'est-ce pas? Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. 2 Timothée 2:2, très beau verset qui dit ceci. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à l'autre. Alors, écoutez ce petit détail intéressant. Jésus n'a pas dit devenez des pêcheurs d'hommes. Il a dit quoi? Je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est très important. Et c'est encourageant. Souvent, nous pensons que nous devons nous-mêmes concocter notre vie spirituelle pour être utile au Seigneur. Non, Jésus nous demande, écoutez bien, tout simplement de le suivre. De le suivre. Il dit, si tu me suis, attention, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Mais je ne sais pas comment pêcher les hommes. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Je vais te montrer. Toi qui me donnes ta vie, ton cœur, toutes tes ambitions, tout. Tu me suis, tu deviens mon disciple, attention, je vais te transformer et je vais t'utiliser. La responsabilité du disciple, c'est de se laisser faire par le guide et son maître. 5. Jésus appelle les hommes dans leur domaine d'expertise. Écoutez, c'est tellement encourageant. C'est intéressant, Jésus fait un lien entre leur travail de pêcheur, donc pêcheur, et le fait qu'il les appelle en tant que pêcheurs d'hommes. Est-ce que c'est simplement un jeu de mots, ou est-ce qu'il disait quelque chose de plus? Eh bien, William Barclay a comparé d'une façon très ingénieuse la pêche de poissons à la pêche d'hommes. Regarde, c'est très intéressant. Premièrement, il doit y avoir de la patience. Donc là, il fait la comparaison entre celui qui va pêcher les hommes et celui qui fait la pêche aux poissons. Un, il doit avoir de la patience. Il doit attendre que le poisson morde l'hameçon ou qu'il vienne dans le filet. Parfois, comme dans Luc 5, il devait attendre une nuit entière sans rien prendre. Un homme impatient ne fera pas un bon pêcheur. De même, le résultat rapide dans l'évangélisation sont rares. 2. Il doit avoir de la persévérance. Il ne doit jamais être si découragé qu'il abandonne la pêche. Il va toujours recommencer, comme dans Luc 5, 6. Un bon évangéliste ne se décourage pas quand il n'y a pas de résultat. Il recommence. 3. Il doit avoir du courage. Il doit avoir du courage pour faire face à la mer, aux orages, au courant, dans son bateau. Dans Matthieu 8, ils avaient peur de la tempête. Eh bien, l'évangéliste doit avoir du courage pour faire face au pouvoir de l'enfer qui veut l'arrêter. 4. Il doit avoir l'œil pour le bon moment, pour l'apparence de l'eau. Un bon œil, un bon pêcheur peut savoir où sont les écoles de poissons. Il sait quand il faut et quand il ne faut pas pêcher. Un bon évangéliste doit pouvoir lire le cœur de qui l'adresse. Qui pousser contre le mur et qui à qui ne rien dire. Il y a un temps où il faut parler et il y a un temps où il faut se taire. 5. Il doit choisir l'amorce pour le poisson désiré. Paul a dit qu'il devenait tout à tout homme afin que de gagner à Christ. Un bon évangéliste sait qu'il ne peut pas utiliser exactement la même méthode envers chaque homme. L'évangile est le même pour tous, mais le besoin de chacun est différent. Et 6. Il doit se cacher du poisson. Son ombre peut empêcher un poisson de mordre l'amorce. Le bon évangéliste se cache. Ce n'est pas lui-même qu'il présente aux hommes, mais c'est Jésus-Christ. Jésus a pris les pêcheurs de poissons. Il a pris leur domaine d'expertise pour les utiliser dans la pêche d'hommes. Dieu peut prendre ton domaine d'expertise. Quel est-il ? Il veut prendre ton domaine d'expertise et l'utiliser pour devenir pêcheur d'hommes. Peut-être informaticien, peut-être enseignant, peut-être t'es bon dans les finances, peut-être t'es bon à la musique, peut-être t'es bon enseigné, je ne sais pas. Quel est ton domaine d'expertise ? Comment est-ce que Dieu pourrait l'utiliser pour sa gloire ? Suis-le. Donne-toi Jésus-Christ pleinement. Donne-lui tout. Dis Seigneur, utilise ce que j'ai. Attention. Il risque de vous utiliser. Alors maintenant, je reviens sur le point 6. Jésus appelle des hommes de manière décisive. À un moment donné, il faut prendre une décision dessus. Comme ils ont fait. Et septièmement, Jésus appelle les hommes pour les transformer. C'est intéressant. Simon, ce pêcheur, était un homme extraverti, leader, impétueux, vous le connaissez. Il est devenu le leader des 12 disciples. C'est le premier nom sur toute la liste de disciples dans la Bible. Il gronde Jésus dans Marc 8 et reçoit la pire réprimande jamais reçue par un disciple. Où Jésus l'appelle Satan, on l'appelle Mandelé, donc il se fait gronder, hein, Pierre. Mais il reçoit aussi un des plus gros heures de tous les disciples dans Matthieu 16. On lui donne un nouveau nom, Jésus lui donne un nouveau nom. Ses luttes iront jusqu'à la fin de sa vie, où il a même nié Jésus à la fin, juste avant la crucifixion de Jésus. Et pourtant, dans Acte 1, il est devenu un des plus grands prédicateurs de tous les temps. Son premier message a produit 3000 conversions. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole après le serment de Pierre furent baptisés en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. André, frère de Pierre, pas évident d'être toujours dans l'ombre de Pierre, d'être le second, le petit frangin. D'accord ? C'est un peu ça. Un homme humble, choisi par Jésus pour être un de ses disciples. Et ce qui est beau, c'est que c'est lui qui a mis Pierre à Christ. On n'est pas être un extraverti pour être utilisé par Dieu, on peut être un introverti et être très efficace. Dieu veut nous utiliser comme on est, mais sanctifié. Jacques. Le tempérament de Jacques et Jean se voit dans Marc 3, 17, où il nous informe que leur nom a été changé de Boanerges, fils de tonnerre. Fils de tonnerre. Ils avaient un penchant pour le jugement. À un moment donné, ils veulent juger les gens qui se comportent mal. Ils disent, ouais, on va appeler du feu du ciel pour tuer ces gens. Jésus dit, hey, calmez-vous les gars, calmez-vous. C'est pas comme ça que ça se passe avec moi, d'accord ? Mais c'est les gens de tonnerre. Ça, c'est Jacques et Jean, oui, Jean l'évangéliste. Ils avaient aussi un penchant pour l'orgueil ambitieux. D'un coup, à un moment donné, on verra tous ces passages, ils demandaient à leur maman d'essayer de voir s'ils pourraient concocter, si la maman peut demander à Jésus qu'ils aient la place à droite et la place à gauche de Jésus dans le ciel. Non, mais c'est quand même dingue. C'était des orgueilleux, des ambitieux, des jugementeux, je ne sais pas comment on dit ça. Et pourtant, Jean a écrit l'évangile de Jean et Jacques était les premiers martyrs de l'Église dans Acte 12. Et Jean, même zèle que son frère. La Bible nous dit, dans Jean 13, 23, que c'est le disciple que Jésus aimait. Bien sûr, Jésus aimait tous ses disciples, Jean 13 le montre. Mais il y avait une amitié particulière avec Jean. Ils étaient, j'ai envie de dire, meilleurs amis. Et lorsque Jésus était crucifié, une des dernières choses qu'il fait, c'est qu'il confie sa propre maman à qui ? À Jean. Vous vous rendez compte ? Ce pécheur, et confier Marie, la maman de Jésus, à la maman de Jésus. Comment Jésus a transformé ces hommes. Incroyable. Est-ce que tu es disciple de Jésus-Christ ? Est-ce que tu retiens quelque chose ? C'est quelque chose que tu n'as pas lâché. Est-ce que tu te trouves un petit peu inutile pour le Seigneur ? vraiment ton sauveur? Est-ce qu'il est vraiment ton Seigneur? Et si Jésus était ici ce matin, il disait, suis-moi, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Tu fais quoi? Question légitime. Ça, c'était le deuxième trait marquant du ministère de Jésus. Et le troisième, vous l'entendez? Il émanait l'autorité. Mais celui-là, on verra dimanche prochain. Il émanait l'autorité.